播董端。
Bonsoir à tous et à toutes. Vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est l'émission des chômeurs et précaires. Merci d'être avec nous, camarades syndiqués et de la gauche ultra. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est une émission de combat puisque nous allons décortiquer la loi Macron, principalement la mise à mort des prud'hommes, l'inspection du travail, la mise à mort de la médecine du travail également. Nous parlerons également de la Banque Centrale Européenne, la BCE, et de la dette grecque, bien sûr, puisqu'il y a quand même des choses à dire là-dessus. Et bien sûr, de tout ce qui touchait le chômage et la précarité. Voilà, donc je vais commencer. C'est bon, donc je vais commencer. Voilà, merci. Merci, Claude. Super. Donc, on va commencer, si tu le veux bien, Ludo, sur... d'abord, nous avions déjà dit la semaine dernière que nous étions contents que Syriza ait gagné, hein, voilà, qu'on pensait que ça allait peut-être faire changer la donne au niveau de l'Europe. Et malheureusement, ils sont un peu isolés, hein, pour le coup. Alors, apparemment, la Banque Centrale Européenne se charge de reprendre un peu la dette grecque à un dixième de ses titres, c'est ça.
Et alors ça c'était avant.
Ça c'était avant. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis? Dis-moi un petit peu.
Un dixième de ses titres, on n'en sait rien. C'était une annonce.
Oui.
À ma connaissance, j'ai pas vu les effets suivre. Donc oui, faut rappeler le quantitative easing, c'est en anglais. Donc excusez-moi pour l'accent. Hein, donc l'assouplissement quantitatif. Effectivement, ça consiste à racheter des titres de dette publiques, donc grecques ou autres. Grec, espagnol ou européenne. Donc Mario Draghi n'a pas précisé de quel pays il s'agissait, s'il faisait ça de façon indistincte. Puis il a fait ça un peu juste avant les élections en Grèce. Donc on voit bien que c'était un geste un peu politique. On ne sait pas trop à l'égard de qui, hein, est-ce que c'était des électeurs grecs ou pas. Et donc en principe, il faut quand même lever une ambiguïté, c'est que ce n'est pas annuler la dette des États. C'est juste faire un transfert. Des titres de dette détenus par les banques privées vers une structure publique. C'est-à-dire ce qu'on a toujours fait jusqu'à maintenant vis-à-vis de la Grèce, on transfère les dettes privées détenues par les banques vers des structures publiques, et finalement c'est l'Europe et donc indirectement le contribuable, bon, même si ça on peut en discuter, qui se charge en fait des dettes des dettes pourries grecques, on va dire, sachant que pour être honnête, les créanciers privés ont quand même renoncé à une large partie de leurs dettes déjà au cours des différents plans de sauvetage. Ça il faut honnêtement. Donc le quantitative easing, le problème c'est que Mario Draghi n'a pas dit ce qu'il avait l'intention de faire. Est-ce qu'il avait l'intention de racheter directement de la dette émise par l'État grec? Donc ça serait c'est pas la même chose, si vous voulez. Ça permet à l'État grec de continuer à fonctionner ou de passer par l'intermédiaire des banques et donc de racheter par exemple les obligations que les banques détiennent, et dans ce cas-là le risque de ce type d'opération, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est que finalement l'argent reste en fait dans le circuit bancaire, et donc à charge aux banques après d'aller reprêter éventuellement aux PME ou aux entreprises ou aux ménages. Ce qu'en France, elle n'a toujours pas fait. Ce qu'en Europe, on fait pas très bien pour des raisons de crise de la demande. Hein, de manque de, donc là où on sait pas quelle sera la solution adoptée, mais jusqu'à maintenant, les solutions adoptées n'ont pas beaucoup aidé à la reprise économique. Donc ça, c'était avant l'élection de Syriza. Et puis, entre-temps, coup de tonnerre, avant même que les négociations ne soient terminées ou au moment où les négociations sont encore en cours, Mario Draghi a décidé de lui-même, semble-t-il, mais on est sûr de rien, de couper une partie, un canal de rachat des titres grecs sur la dette. Et donc, en fait... Jusqu'à maintenant, il y avait un guichet ouvert qui permettait aux banques qui
étaient une souplesse, hein, plus ou moins.
Alors c'est voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il a injecté des liquidités via le système dont on vient de parler. Mm-hmm. C'est-à-dire les banques grecques pouvaient échanger des titres de dette auprès de la BCE, des titres de dette grecque auprès de la BCE, donc des obligations principalement, ou des bons du Trésor grec auprès de la BCE, qui en échange leur fournissait des liquidités, et ce système permettait à l'État grec de continuer à survivre. Au jour d'aujourd'hui, un des canaux est fermé, et c'est un signal clair envoyé au gouvernement d'Alexis Tsipras, c'est-à-dire un message qui est clair, c'est-à-dire non pas Alexis Tsipras avait renoncé à demander l'annulation complète des dettes. Donc il était d'accord pour restructurer, donc il était déjà revenu sur ses promesses de campagne pour essayer de satisfaire ses partenaires européens, sauf que là c'est on lui demande pas de il avait déjà fait un pas, hein, en quelque sorte, hein. Et bien là non, visiblement le message c'est le maintien de la Troïka, donc le FMI, la Banque Centrale, donc pour superviser les comptes de la Grèce, le maintien des politiques d'austérité, donc austéritaire, donc par exemple la suppression, je sais pas, des 30 000 fonctionnaires, la libéralisation de certains ports, hein, d'entreprises, et puis l'acceptation de la dernière tranche d'aide du FMI. Alors l'acceptation de la dernière tranche d'aide, en fait, Tsipras voulait sortir de ce cycle, si vous voulez, où on reçoit de l'aide, mais où on accepte les politiques austéritaires, donc une aide conséquence, et finalement la politique austéritaire crée la dette en termes de ratio de PIB. C'est-à-dire que la dette de la Grèce aujourd'hui est plus élevée par rapport à son PIB, en pourcentage de son PIB, est plus élevée qu'en 2009, tout simplement parce que son PIB s'est effondré de 25% sur 5 ans. Donc c'est sur 4 ans.
C'est énorme.
C'est ouais. Aucun pays n'a connu ça. Un économiste rappelait ça. Aucune économie n'a connu ça depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, en termes de ratio, sa dette est plus élevée et ça a une conséquence sur les marchés financiers. Alors certes, elle peut plus financer sur les marchés financiers, mais ça a une conséquence sur ses notations et sur sa capacité à revenir se financer sur les marchés étrangers. Donc Syriza voulait rompre avec ce cycle-là et envisager de partir dans un sens contraire, c'est-à-dire faire redémarrer l'économie, désendetter les entreprises privées, et une fois l'économie repartie, alléger progressivement la dette publique. C'est pour ça qu'ils avaient promis, par exemple, un désendettement sur la croissance. Cette idée-là justement pour sortir d'une spirale déflationniste. C'est ça qui guette la Grèce, bien entendu. Enfin, la Grèce est en plein dedans, mais qui guette aussi l'Europe.
Alors moi j'ai une question, parce qu'il y a évidemment la dette de l'État, bien sûr, mais il y a également les intérêts de la dette. Est-ce que la BCE a fait quelque chose sur les intérêts de la dette grecque?
Justement, donc là, bon, le service de la dette grecque, il est ce qu'il est, mais jusqu'à maintenant, les intérêts via la BCE étaient de 0,05%.
D'accord.
Donc c'était très bas. Mmh. Avec le nouveau, avec ce nouveau coup de semonce, les intérêts ont commencé à remonter. Et ils sont aujourd'hui à 1,50. Donc, effectivement, en fait, c'est le gros problème, hein, c'est que les taux d'intérêt, aujourd'hui, jouent un rôle majeur dans la capacité ou pas de se financer à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on ne remet pas en cause la capacité de l'État, des États à s'endetter, mais par contre, on calcule sur leur capacité à payer des mensualités supplémentaires, en quelque sorte, hein. C'est-à-dire qu'à alourdir d'autant plus leur dette via le service de la dette. Donc donc effectivement les taux d'intérêt vont remonter. Voilà. Alors il y avait aussi une chose qui était quand même importante qu'il fallait rappeler dans le cas de la dette grecque, c'est que donc c'est un économiste sur France Info qui parlait de ça. Il disait mais finalement on a bien profité de la dette grecque. Et il faut le rappeler.
C'est grâce à eux qu'on s'est enrichi.
Alors exactement. Ouais. Donc et il citait comme exemple deux cas d'endettement faramineux qui avaient eu lieu pendant les années 2000, les JO d'Athènes, les Jeux Olympiques, donc qui étaient d'un montant, je crois que c'est 30 milliards d'euros, et où les entreprises allemandes s'étaient bien enrichies, donc notamment citer l'exemple de Siemens, et où on avait été bien content, hein, d'avoir un débouché en fait pour nos entreprises. Et puis une deuxième qui est moins connue, c'est l'industrie de l'armement. C'est-à-dire que comme la Grèce, disons, est en froid, une espèce de petite guerre froide avec la Turquie, eh bien, elle a simplement acheté des Mirages, des Rafales, à la France, entre autres. Hein.
Bien,
donc,
bien.
La France, ouais, c'est bien, hein, d'accord. Et donc, l'air de rien, quand même, la Grèce est le troisième client de la France en termes d'achat d'armement. Et personne n'a rien trouvé à lui redire, bien entendu. Hein, un budget militaire qui était surdimensionné par rapport à la taille de son pays. Et dernière chose, quand on a sauvé la Grèce, donc, puisqu'on est tous d'accord sur ce plateau que la Troïka et le FMI ont sauvé la Grèce.
Oui, absolument. Vive le FMI d'ailleurs, je le dis.
Voilà. Donc, en fait, quand ils ont sauvé la Grèce, il faut dire ce que rappelait cet économiste très simplement, c'est que l'argent, si vous voulez, il va à la Grèce qui rembourse ses créanciers. Donc, il part, en l'occurrence, du public de la BCE pour retourner aux banques privées. Et les banques qu'on sauve, c'est bien entendu les banques françaises, le Crédit Agricole, la banque allemande. Et bien entendu que le contribuable grec, l'argent, il lui passe sous le nez. Oui. Et donc, finalement, la dette, on peut dire que d'une certaine façon, l'endettement dans les années 2000... Le plan d'aide, ils n'ont servi que les intérêts des puissances européennes et des banques, principalement. Des entreprises et des banques européennes.
Alors, on a vu quand même, alors je ne sais plus laquelle, parce que je suis pas très calé en histoire, mais on a vu les États-Unis qui avaient dans le passé relancé la planche à billets pour relancer la consommation. Est-ce que on peut faire ça en Grèce aussi?
Alors, justement, c'est le même procédé, c'est du quantitative easing, c'est pour ça qu'on reprend ce terme-là, mais il y a le même, il est très clair que ça a été l'intérêt du quantitative easing est de faire baisser la valeur de sa monnaie, c'est-à-dire en augmentant la masse monétaire.
D'accord.
Donc, et finalement, on voit que à chaque fois que le dollar baisse par rapport à l'euro, c'est favorable pour le commerce extérieur, si vous voulez. Donc, ça fait effectivement repartir l'économie dans le sens de l'exportation. Donc, ça, c'est important puisque la balance commerciale soit à peu près équilibrée. En revanche, effectivement, ça surenchérit les prix du pétrole. Dans le cas de l'euro, vu l'état de, on est proche d'une zone, on est proche de la déflation. L'Europe n'a pas réussi à tenir son objectif de 2% d'inflation. 2%, c'est un truc normal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à 0,0. On est très proche. Bon. Et donc effectivement, ça ne peut être que profitable. Et la baisse de l'euro aussi est profitable par rapport au dollar. Cela dit, reste cette question-là. C'est-à-dire que si, comme il a été fait aux États-Unis, hein, c'est-à-dire si le quantitative easing se résume à racheter les titres de dette détenus par les banques, l'argent, il reste dans les banques. Tout simplement. Parce qu'il y a d'autres problèmes au fait qu'une économie ne décolle pas. Et ça peut être aussi un problème de demande, c'est-à-dire un problème de salaire bas, de salaire comprimé, tel qu'on a aujourd'hui, tel qu'en Europe, on a des salaires qui sont trop bas pour activer la demande. Donc je pense que beaucoup d'économistes estiment que le quantitative easing ne règle pas tout. C'est un peu mieux, ça c'est censé soulager les États et les banques, mais c'est tout. Faire redémarrer la croissance.
À exception si les banques jouent le jeu, c'est-à-dire que s'ils prêtent aux ménages et aux entreprises, aux PME, là peut-être qu'il y a une relance.
Mais comme par hasard, ils ne l'ont jamais fait. Alors voilà, qu'il n'y a jamais eu autant de liquidités et que les banques ne sont pas en faillite du tout. Et en 2008, tout va bien pour les banques.
Merci Udo.
Oui, il faut rappeler une chose historique au niveau de la Grèce. D'abord que c'est un pays qui n'a pas beaucoup de marge de manœuvre économique. C'est-à-dire que leur fleuron, c'est quoi? C'est le tourisme. Hein, c'est une certaine forme d'agriculture méditerranéenne. Et surtout, la stratégie qui a été faite dans les années 70 et 80, c'était de donner notamment aux armateurs grecs, dans tout ce qui est industrie batelière et navale, un certain nombre d'avantages fiscaux comme des offshore. Donc les plus grands milliardaires aujourd'hui grecs sont en fait des armateurs.
Oui, ça, c'est ça.
Non mais c'est une spécificité. C'est-à-dire que ces exemptions fiscales, moins d'impôts, etc., ont créé des zones offshore de fait au niveau de la rentrée des recettes et des impôts, et ont entraîné comme sport national le fait de ne pas payer l'impôt par rapport à ça. Ça a été un véritable sport national, puisque il n'y a pas de service financier aussi bien développé qu'en France, sachant qu'on l'a réduit comme une peau de chagrin en France. Donc, ce que je veux dire, c'est que la Grèce, du fait c'est le même concept, de l'avidité d'une minorité qui veut s'arroger des sommes colossales en termes de profit, s'est créé elle-même l'endettement. Mais il a été encouragé. Pourquoi? Parce que du fait de ces biens industriels, cette spécificité navale, entre autres, bah, les banques étaient très intéressées que la Grèce, s'endette. Parce que ça leur permettait d'avoir ces zones libérales, donc ces zones de profit à échéance. Donc, je veux dire, tout le monde, c'est ce que rappelle très bien Ludovic, tout le monde était très content pour les géos d'Athènes.
Et non, en plus, il faut se souvenir que l'économie grecque allait bien, elle était au-dessus de la moyenne en termes de croissance avant la crise, au-dessus de la moyenne européenne, elle était à 4%. Et c'est pas pour rien, c'est parce que les Grecs consommaient. Et ils consommaient, bien entendu, des produits importés, bon, on l'a dit. Et quand on parle de si vous voulez, de, comment dire, c'est des mauvais payeurs, les Grecs, hein, ils payent pas leurs impôts. Mais il faut rappeler une chose, c'est que c'est d'abord un problème de prélèvement de l'impôt. C'est-à-dire que c'est qu'en Grèce, on n'a pas une administration qui est aussi bien organisée qu'en France, qui est la championne du monde pour la collecte de la TVA. Voilà, certes, après.
Ça c'est une réalité, hein. Dizaines et des dizaines de milliards d'euros à la Grèce. Voilà. C'est-à-dire que ça a été une volonté pour rassurer les investisseurs, notamment dans ce secteur aéronaval, hein, on va le dire, hein. Parce que il y a aussi tout ce qui est industrie de l'armement indirectement. On a créé ces formes d'exemption du droit fiscal qui est devenu un sport national et qui a créé de fait la dette pour tous.
Oui, parce que les exemptions fiscales, on est bien content en fait de les avoir pour provoquer de l'activité économique quelque part. Donc c'est d'abord une politique. On commence par, hein, on est bien placé ici pour le savoir, les fameuses niches fiscales. On commence par faire de l'exemption fiscale et puis ensuite on s'aperçoit que ça coûte cher au public. Et puis il y a une deuxième chose, c'est qu'effectivement on dit que les Grecs, que l'État grec a plus de fonctionnaires en moyenne que le reste des pays européens. Donc c'est vrai. Sauf que ce qu'on oublie de dire, et ce qu'on oublie de dire malgré le plan d'austérité, c'est que certains secteurs sont plus préservés que d'autres. Et à votre avis, en Grèce, quels sont les secteurs parmi les fonctionnaires qui sont plus préservés que d'autres?
L'armée.
Si vous avez vu Z, vous le savez.
L'armée, la police,
la justice.
Ouais, c'est ça.
Voilà.
Mmh.
Et effectivement, les dépenses militaires ont une part complètement, anormalement élevée, disproportionnée par rapport à leur.
C'est-à-dire que la Grèce, il y a eu combien de millions d'habitants? C'est 20, c'est ça? Je ne sais plus. Voilà, bon, en gros, c'est un pays qui a 2-3 fois moins d'habitants que nous, mais qui a une armée aussi imposante que la France.
Là. Exactement.
Et voilà. Non, mais c'est une réalité. Alors, or, ce qui est intéressant, c'est que si tu veux derrière ça, il y a une logique de libéralisation de l'économie. Et voilà à quoi ça a conduit. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir des gens qui ont une logique économique et des thèses économiques complètement contraires, hein, qui sont le parti Syriza. Et là, d'un seul coup, t'as l'orthodoxie bruxelloise et libérale qui intervient en disant « Ah ben maintenant, on peut plus s'enrichir sur la Grèce. » Et là, qu'est-ce qu'ils font? Un ultimatum. Comme quoi, ça, c'est la démonstration que c'est bien les libéraux. Ça peut paraître des magouilles, mais ça ne l'est pas. C'est la démonstration que c'est bien les libéraux, le grand patronat et les grands groupes qui aujourd'hui dirigent l'Europe.
Alors, pour rebondir un peu sur ce que dit Christophe, je voudrais juste donner une petite idée de ce qu'est Mario Draghi, parce que là, on a un portrait dans l'humanité. Alors, je rappelle, hein, la décision de la BCE récente, c'est principalement le respect de la cure d'austérité imposée par le maintien de la Troïka, donc la FMI, BCE.
Et pourtant, on voit bien que ça ne fonctionne pas depuis 40 ans.
Oui, mais ils sont chargés d'appliquer la libéralisation de l'économie, la réduction des fonctionnaires, donc le plan d'ajustement structurel dans toute sa splendeur. Or, Mario Draghi, pour vous donner une petite idée de qui il est, puisque on a dit, d'abord, il y a le rôle de la BCE. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit de plus en plus que la BCE a un rôle qui est éminemment politique, qu'elle passe outre depuis le début de la crise, depuis les demandes des chefs de l'État. Alors quand c'est dans un rôle un peu positif, passe encore, mais là, vous voyez, elle va contre la volonté d'un gouvernement démocratiquement élu, enfin, ou plutôt d'une élection qui vient d'avoir lieu, donc d'un peuple, hein, avant même que les négociations aient lieu. Bon, et on peut se demander légitimement si elle n'est pas en train d'outrepasser son mandat, après tout. On n'a jamais demandé à Mario Draghi de faire de la politique, de l'économie politique. Alors, du coup, Mario Draghi, pour vous donner une petite idée, au départ, c'est un haut fonctionnaire italien. un haut fonctionnaire, effectivement, qui est dans la banque. Donc, c'est quelqu'un qui est convaincu aux idées libérales. Donc, dernièrement, en 2013, il a affirmé en France donc que la compétitivité restait insuffisante en France, et avant de louer les réformes structurelles courageuses de l'Allemagne. En 2011, il a joué un rôle discret dans l'éviction de Silvio Berlusconi. Donc, il aurait demandé à Berlusconi un certain nombre de réformes que M. Berlusconi, en tant que président élu, Berlusconi restait un président élu, avait du mal à appliquer parce que c'était un peu salé. Et donc, conséquence du refus de Berlusconi d'appliquer les réformes, eh bien, les taux d'intérêt sur les bons du trésor italien ont grimpé, contraignant Berlusconi à démissionner au profit d'un autre technicien banquier. Voilà. Alors, ça c'est. Alors, sur le passé, proprement dit, hein, en 91, il a dirigé la délégation des fonctionnaires italiens chargée de négocier le traité de Maastricht. De 91 à 2001, il est directeur du Trésor de l'Italie, période où il s'illustre avec la privatisation de 750 entreprises. Ses ventes rapporteront 100 milliards d'euros, mais ne réduiront pas la dette, selon l'humanité. Mais l'ancien professeur d'économie peut se forger des amitiés solides dans le monde de la finance, notamment avec l'ex-patron de Fiat, mais aussi avec l'ancien vice-président de Goldman Sachs, avec qui il passait ses vacances. Banque qui sera mandatée par Draghi pour privatiser le géant des hydrocarbures italiens. Mais, donc c'est Eni, hein, l'hydrocarbure. Goldman Sachs, qui l'embauchera en 2002. Et il prend la tête du département Europe, où il supervise les opérations sur la dette souveraine. En 2001, Goldman Sachs aide le gouvernement grec à souscrire des swaps. Les swaps, c'est des produits d'assurance
toxiques,
mais qui sont chargés d'assurer contre la dette. Et qui permettent de dissimuler le niveau d'endettement.
D'accord.
Grosso modo, c'est ça. Donc, des produits financiers qui permettent de masquer temporairement du bilan une partie de la dette. Cette dissimulation a permis à la Grèce de se qualifier pour la monnaie unique. En résumé, tout le monde le savait. C'est-à-dire qu'Eurostat l'avait dénoncé. Hein, la Grèce ne respectait pas les critères pour adhérer à l'Union, mais tout le monde s'en est moqué. Et donc, interrogé par les eurodéputés lors de sa nomination à la présidente de la BCE, Draghi fera valoir qu'il n'y est pour rien. Il était responsable des opérations financières en Europe. Ces swaps ayant été liquidés un an après son départ de la banque, on voit pas le rapport, en 2006. Argumentation fallacieuse, en 2002, il était co-signataire avec le prix Nobel Robert C. Merton d'un article vantant les vertus de la dissimulation de créances pour stabiliser les revenus de l'impôt et éviter l'accumulation de dettes. Voilà.
Très bien, ça veut dire qu'on est quand même bien dirigé d'une façon générale. Merci Ludo, merci à Christophe. On va écouter une petite chanson et puis on reprend la parole par la suite. Merci.
Nos capitaux, le capital. Nos capitaux, le capital, nos capitaux, le capital.
Et oui, vous êtes bien sur 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est l'émission des chômeurs précaires. Ce soir, je suis avec Christophe et Ludo. Merci à tous les deux d'être là.
Bonsoir.
Bonsoir. Claude à la technique et Gilles également avec vous au micro ce soir. Donc, nous en passons maintenant sur quelque chose qui va un peu nous fâcher parce que c'est la loi Macron qui est un fourre-tout. Institutionnel, je sais pas si on peut le dire comme ça.
Ah, t'es sûr que c'est un fourre-tout institutionnel?
Oui,
fourre-tout législatif.
Voilà, c'est ça.
Tu l'as vu, la loi Macron?
Je l'ai lu en partie, oui. Alors, il s'agit bien d'une régression sociale. C'est la mise à mort du Code du travail par la voie ouverte aux conventions entre salariés et employeurs qui permettent de court-circuiter le droit du travail et la justice prud'homale.
Alors.
Il paraît que alléger la fiscalité des entreprises permettrait le retour de la croissance et de l'emploi. Il suffit de dire que dans l'ANI, ils ont prêté quand même 220 milliards aux entreprises. Et que là, pour l'instant, l'emploi n'a pas spécialement ne s'est pas amélioré pour le coup. Donc, apparemment, c'est une grosse arnaque. Nous avons ici un spécialiste pour en parler, n'est-ce pas, Christophe? Tu vas nous dire un petit peu ce que tu en penses de cette loi.
D'abord, non, mais c'est pas une arnaque, c'est une logique de la banque Rothschild. Voilà, non, mais les chiens ne font pas des chats. Quand on a été banquier à Rothschild, on est de gauche, mais on ne le sait pas. Non, mais alors donc, je vais lire un blog qui est sidérant. Sur la loi Macron ou comment revenir au contrat du 19e siècle. Alors, on va pas trop rentrer dans les détails techniques, mais il y a des tracts de la CGT qui ont parfaitement résumé la situation. Mais moi, je voudrais expliquer un truc qui est un truc de fond dont on se rend pas compte. Parce que sous prétexte de libéralisation, modernisation, réformation, crémation, le droit du travail. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est un extrait d'un blog sur des idées, ça s'appelle Regard, hein. C'est la loi Macron, comment revenir au contrat de travail du 19e siècle. Donc, en fait, pour monsieur Macron, la liberté, le consentement, le volontariat face à un employeur, c'est normal, sauf que l'employeur, il est en position de force. Eh bien, en fait, la loi Macron met en œuvre le rêve du MEDEF dans lequel le contrat remplace le droit du travail. C'est-à-dire que, on se souvient tous de l'ex-patron du MEDEF, Denis Kessler, qui œuvrait à défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la Résistance, qui a été l'origine de notre fameuse sécurité sociale, entre autres. Eh bien, en fait, l'économie semble en effet décider à renvoyer le contrat de travail à ses modalités du début du 19e siècle. Puisque celui qui n'a que le mot modernisation à la bouche, monsieur Macron, dans son projet de loi, donc pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, c'est beau comme l'antique, on dirait du Cicéron, a adopté quelque chose qui est formidable. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, je vais vous l'expliquer, cher auditeur. Au départ, le contrat de travail en termes de droit, ça se caractérise par un lien de subordination juridique permanent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le salarié étant sous l'autorité de l'employeur, qui a le pouvoir de lui donner des ordres, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements. C'est précisément pour compenser ce rapport fondamentalement inégalitaire qu'a été élaboré quoi, à votre avis?
Et bien, les conventions collectives.
Non, le code du travail avant. Ah, oui. Puis ensuite, les conventions collectives. Le code qui remonte à 1910 n'a cessé de se renforcer depuis ses lois sociales, obligeant par exemple l'employeur à payer non seulement l'acte productif, hein, mais aussi le repos.
Quoi, ils les embauchaient sans les payer avant?
Les congés payés. Je tiens à vous aller rappeler que les premiers congés payés, ça date de 1936.
Ouais, on savait pas. Hein.
Le logement.
On n'est pas au courant, nous.
Logement patronal. Le transport. La formation professionnelle, la protection contre le chômage, les accidents du travail, la maladie, la vieillesse, bref, tout ce qui peut...
La retraite.
Oui, tout ce qui peut nous arriver lorsqu'on est un bon travailleur au service du MEDEF. Sauf que ces contraintes ne sont pas le rêve du MEDEF.
Attends une seconde, on ne dit plus travailleur, on dit esclave, aujourd'hui.
Et en fait, le MEDEF, depuis 1999, veut passer d'un contrat de travail synalagmatique, supposant donc un échange d'obligations réciproques en termes de droits et collectifs à un contrat civil individuel négocié de gré à gré. C'est-à-dire que la notion de convention collective, la notion de même salaire pour tous, de même droit pour tous, droit au congé, droit...
Mais j'avais pas vu que tout ça dans la loi Macron, quand même.
Eh bien, si, parce qu'en fait... Dans ces conditions, le salarié, grâce à la loi Macron, aurait toute liberté de consentir à travailler le dimanche, la nuit ou 60 heures par semaine, sans être bridé par les rigidités du Code du travail.
De 8h à minuit. Hein.
Voilà, qui représente, selon le député socialiste Jean-Marie Le Guen, un redoutable tabou national et un puissant répulsif de l'emploi. Le Code du travail, c'est comme les insecticides, ça fait fuir le travail. Voilà. Sauf que, donc, en fait, le texte d'Emmanuel Macron avance discrètement dans cette direction de transformer un contrat avec des obligations contractualisées et réciproques en tout simplement un simple accord lié au code du code civil de gré à gré.
Il s'agit pas de plutôt d'exemption, non, ou d'exception, par exemple.
Eh bien non, parce qu'une simple convention à l'amiable pour les différents s'élevant à l'occasion d'un contrat de travail soumis aux dispositions du Code du travail, licenciement, harcèlement, le Code civil estime en effet qu'en raison de l'inégalité du rapport de force, un différend entre un employeur et un salarié ne peut se régler par la même procédure qu'un différend entre deux particuliers. C'est la raison pour laquelle on a créé les prud'hommes. Or, si nous rentrons dans un contrat ayant des attributions liées au Code civil, nous ne serons plus dans une logique de rapport inégalitaire que certifie le Code du travail et les juridictions prud'hommales. C'est bien là le problème. Vous comprenez ce qui se passe là, plus profondément, hein? C'est...
Oui, enfin, le Code civil n'a pas encore remplacé le Code du travail, à ce que je sache.
Mais c'est
peut-être
là...
Peut-être bientôt, justement, c'est justement, ça la question.
Parce que ça reste quand même la norme, mais là, le Code du travail reste la norme.
Mais oui, bien, oui, sauf que, mon cher, comme tu le rappelais très bien, Gilles, C'est pas la première brèche qu'ouvre un gouvernement dans le droit du travail ou au nom du supposé consentement entre employés. C'est comme le mariage, c'est un consentement entre époux.
En effet, un consentement mutuel. Un contrat de travail, c'est aussi un truc, un consentement mutuel.
Voilà. L'année du 11 janvier 2013 et la loi du 14 juin 2013 permettent, par exemple, de ne pas respecter le plancher de 24 heures hebdomadaires pour les temps partiels avec l'accord du salarié. Un accord, bien sûr, béni, hein. Quant au travail dominical promu par Macron, il sera réservé aux volontaires. Bah, voyons. Vous voyez un patron dire volontairement vous allez accepter de travailler le dimanche prochain. Vous appelez ça une volonté de Dieu, hein, une volonté civile ou une volonté du code du travail? Non, mais je vous laisse réfléchir sur ça, hein, c'est un petit exemple. Reste que cette volonté d'isoler les salariés et de sortir les rapports du travail du périmètre de la loi pour les abandonner à la liberté contractuelle et donc au code civil rappelle les mesures les plus socialement dévastatrices du début du capitalisme et du 19e siècle historiquement, mon cher monsieur. Dans la foulée de la Révolution française et de la restructuration de la société au profit de la bourgeoisie, la loi Le Chapelier de 1791 avait prétexté de la lutte contre le corporatisme d'Ancien Régime et de la défense de la liberté du travail pour interdire les groupements professionnels et coalitions ouvrières. Or, comme le dira Karl Marx, le travailleur libre qui se rend sur le marché libre pour y vendre sa peau doit s'attendre à être tanné. Oui, monsieur.
Mais il faut quand même rappeler que le problème du travail du dimanche, c'est vrai qu'on passe de 5 à 12 dimanches, c'est pas terrible non plus, mais il y a quand même quelque chose qui est en dessous de tout ça, c'est qu'effectivement, dans le cas du commerce, genre les champions, ce genre de choses, dire à une femme qui est caissière, qui est monoparentale et qui a besoin de travailler pour vivre, qui travaille à temps partiel, vous allez travailler le dimanche parce que en fait vous les êtes effectivement, tu viens de le dire, volontaire, et puis en même temps vous allez pouvoir subvenir à... mais en même temps elle est en charge d'enfants, elle a pas beaucoup d'argent, elle peut pas refuser. Donc là il y a l'inégalité se creuse là, pour le coup. Donc cette loi est complètement unique effectivement. Donc
parce
on va
que
peut-être en faire un
détail. Ça tape sur des secteurs qui sont quand même, donc en l'occurrence le commerce et la grande distribution, qui sont pas très bien lotis à la fois au niveau salarial et au niveau des conditions de travail.
Tout à fait.
C'est des secteurs où il y a une vraie pénibilité, notamment les caissières. C'est là où on développe des troubles musculo-squelettiques, mais où en plus les temps partiels sont très très importants et puis les salaires vraiment
80% plus
élevés.
Et
comme par hasard, on colle ça sur les secteurs donc dits comment dire concurrentiels, je crois que c'est le terme, et donc ceux qui sont déjà soumis à une forte pression.
Non mais c'est pire que ça, c'est-à-dire que moi, je rappelle les principes, parce qu'on parle des corporations, d'ouvrir sur certains acteurs d'activité comme les magasins de proximité le dimanche, etc. Mais c'est pas ça le problème de fond dans la loi Macron. Il y en a deux, je vais te dire. D'abord, c'est le code civil, c'est le retour à 1804 et la suppression du droit du travail.
Tu aurais dû faire de l'enseignement, je
vais
tout de suite.
Mais non, parce que c'est ça le problème de fond, c'est que le salarié est subordonné à son employeur, il est aux ordres. Le code du travail sert à limiter pour partie l'arbitraire patronal. Dans le droit civil, les deux parties sont à égalité. Le projet Macron abroge l'ANEA du code civil qui exclut les contrats de travail. Ce n'est ni plus ni moins la suppression du droit du travail, un retour à 1804 au code Napoléon et à la fameuse loi Le Chapelier. Il suffira au patron d'obtenir pour chaque litige l'accord du salarié et aucun juge ne pourra venir troubler cet accord au nom d'un quelconque droit du travail. J'espère que le Conseil constitutionnel va réagir par rapport à cette loi. Et à la mise à mort des prud'hommes, parce que
absolument.
Le projet Macron vient casser plus encore ce qui reste souvent le seul recours pour les salariés, c'est-à-dire le pouvoir des juges départiteurs, absolument, l'extension de la formation restreinte, deux conseillers au lieu de quatre, le contrôle et l'organisation de la démission des conseillers prud'hommaux, la suppression possible de la case bureau des jugements, la suspension de contrôle institutionnalisé, les sanctions renforcées contre les conseillers, la représentation obligatoire en appel moins de juges.
Par sanction, sanction, tu veux dire effectivement la notion de blâme et puis de...
Voilà.
Exactement, tout à fait.
Les patrons pourront se payer des DRH bis. L'inspection du travail.
Et qui dit blâme, excuse-moi de te couper, mais qui dit blâme, c'est-à-dire que celui qui est un peu syndiqué, le juge des prud'hommes qui est un peu syndiqué et qui veut vraiment défendre l'ouvrier, sera peut-être considéré comme faute professionnelle et puis etc. etc.
Alors
c'est
là,
pas toutes les dérives sont possibles en fait.
Les dérives sont possibles parce qu'en plus, j'espère que ça va être sanctionné par, ça va être considéré comme anticonstitutionnel.
Dans l'État, ça passera pas. Enfin, j'espère.
Ça va passer à l'Assemblée nationale, ça va être validé par retour.
Je sais pas parce que là, pour l'instant, il y a pas mal de motions qui sont en train d'arriver quand même.
Ouais. Alors, il y a le troisième problème, c'est l'inspection du travail, c'est-à-dire que le projet Macron achève un décret Sapin du ministre Sapin de mars 2014 sur l'indépendance de l'inspection du travail. C'est-à-dire que les amendes administratives que pouvaient promulguer des inspecteurs du travail vont être remplacés par des amendes pénales. L'administrateur...
C'est le contraire. Les amendes pénales seront remplacées par des amendes administratives.
Voilà. Exactement. Ouais, donc, excuse-moi, exact. C'est-à-dire que l'administratif ne sera plus l'inspecteur du travail et son supérieur hiérarchique régional, mais le directeur de la directe. Le patronat échappe ainsi au procès pénal et accède aux arrangements entre amis.
C'était rarissime. Le procès pénal pour un patron, à part France Télécom...
Mise à mort de la médecine du travail, puisque...
On en parlera tout à l'heure de la médecine du travail, mais vas-y, continue.
Voilà. Travail le dimanche, en soirée et la nuit. Alors là, le travail de nuit, je vais prendre qu'un exemple. Hein. Au lieu de commencer à 21h, commencera à minuit. Bah oui, bah voyons, ne nous gênons pas. Avec 5 dimanches maximum par an, voilà. Déréglementation des transports publics, donc la SNCF se transforme en transporteur de luxe. Le transport encore est bien plus polluant que le train. Ce projet de loi, en plus d'être socialement irresponsable, serait aussi écologiquement, puisque les transports en commun type car coûteraient moins cher. Et puis alors, il y a toujours les plus de simplification pour les entreprises. Redressement ou liquidation judiciaire, il s'impliquait ainsi les efforts de reclassement pour les grandes entreprises. Alors, mais j'ai gardé le meilleur pour la fin.
Vas-y.
Est-ce que je peux te le dire?
Non, mais ça, c'est par la suite.
C'est trop mignon.
Tout à l'heure, s'il te plaît. Donc effectivement, donc dans le cadre effectivement de cette restructuration du code du travail, le problème se pose de la protection des salariés, parce que là, pour le coup, ils n'auront plus beaucoup de protection, hein, puisqu'il y est quand même dit que le contrat sera quand même entre un bailleur et un locataire, ou entre voisins égaux, pas comme un employeur et un subordonné. Et les droits que donne le droit du travail en contrepartie de la subordination seront donc équivoques. Donc ça veut dire qu'il n'y aura plus ce combat entre contre passé au prud'homme, ce débat entre juges du prud'homal, pour dire faire les débats et donner après une élection.
Monsieur le juge n'aura plus le son mot.
Ce sera un juge du civil qui donnera, qui sera donc un juge professionnel, qui pourra donner effectivement son avis. Donc là, quand même, il y a une grosse perte pour l'instant. Donc nous espérons que ça ne passera pas dans ce cadre-là. Il y a beaucoup de motions qui arrivent. Nous espérons que la loi ne passera pas.
Par contre, le MEDEF est aux anges.
Oui, le MEDEF est aux anges. On écoute une petite chanson, on passe par la suite.
Comme un étranger dans la ville, je suis plus seul qu'une ombre.
Et oui, vous êtes bien sur Fréquence Paris 106.3 FM, mode d'emploi, émission des chemins précaires. Vous venez d'entendre « Comme un étranger dans la ville » de Schmoll. Nous reprenons cette émission avec Ludo et Christophe au micro. Bonjour à tous les deux.
Bonsoir.
Claude à la technique, Gilles également avec vous ce soir. Nous allons parler maintenant effectivement de tout ce qui touche la santé, Ludo.
Oui,
en principe, dans le cadre de la loi Macron, bien sûr. Alors, dis-nous un petit peu ce
non,
qui...
Non, mais écoute, vous savez tous que la médecine du travail est malade, et elle est malade principalement de son sous-effectif, et du fait que, finalement, elle a été, à sa naissance, inféodée aux entreprises, en fait. Hein. C'est-à-dire que c'est, grosso modo, c'est les entreprises qui, par une cotisation, payent le fonctionnement de la médecine patronale et ont une relative main dessus. Donc elle est mal en point. Il manque à peu près 600 médecins et 1700 d'entre eux partent en retraite de façon imminente. Certains donc sentent font des visites de routine ou bien ratent des gros problèmes de santé faute de moyens et de suivi, puisque vous savez, si vous avez souvent travaillé, qu'en fait la médecine du travail ça se limite à la visite d'embauche, de pré-embauche, hein. Et je crois même que des salariés, par exemple dans la fonction public ou même dans une même entreprise, voit un médecin peut-être tous les 4 ans, 5 ans normalement, c'est une fois tous les ans. Donc effectivement, la médecine du travail rate son rôle de prévention. D'ailleurs, les médecins du travail dans la fonction publique, on appelle ça des médecins de prévention, et c'est pas la même chose, puisqu'il s'agit évidemment de veiller à ce que les conditions de l'entreprise ne génèrent pas
de maladies,
voilà, mais de plus en plus des risques psychosociaux, mais ça peut être aussi c'est important, ça peut être aussi des par exemple les postures, hein, on parlait des caissières tout à l'heure, bref, donc il y a un rôle qui est effectivement sous que la médecine du travail ne remplit déjà pas son rôle. Or, Monsieur Macron tire toutes les conséquences de cet état de fait, mais pas dans le sens où on l'entend, puisque les considérations générales du projet de la loi Macron,
qui s'appelle, j'ouvre les guillemets, mesure relevant du domaine de la loi relative à la constatation de l'inaptitude médicale et à ses conséquences au regard du salarié et de l'employeur, ainsi qu'au regard de l'organisation des services de santé au travail et des missions des personnels concourant à ces services, notamment à celles des médecins du travail, en vue de déterminer des priorités d'intervention au bénéfice d'une application plus effective du droit du travail dans les entreprises. Ce type-là a fait de la philo,
stop,
ça s'entend.
Les énarques, voilà, pensent.
Exactement. Ainsi que l'étude d'impact de la loi Macron. Donc, on a bien compris, il y aura d'abord une étude d'impact.
Ça, c'est bien, l'étude d'impact.
Voilà, voilà. Et donc, l'étude d'impact, bon, ben.
Il y aura peut-être même un audit sur l'étude d'impact après, peut-être.
Alors, voilà, mais du coup, bon, l'étude d'impact est sans
et un baromètre où je pense.
Voilà, donc, il expliquait clairement que l'obligation légale de la visite d'embauche ne peut être effectuée car il manque de médecins de travail, donc dans les attendus de la loi, et que les employeurs sont donc dans une situation d'insécurité juridique. Alors moi, j'adore l'insécurité juridique des employeurs, c'est un mot qu'on entend à tour de bras depuis que François Hollande est président, j'ai envie de dire. Car la Cour de cassation sanctionnerait lourdement le non-respect de l'obligation de sécurité. Ben oui, des obligations quand même vis-à-vis de ses salariés. Donc voilà. Donc je veux dire, ça fait, quand on entend ça, insécurité juridique pour les employeurs, c'est partie de toute une batterie. C'est la philosophie d'une partie de la loi Macron. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est aussi le cas, par exemple, pour la suppression du délit d'entrave, c'est-à-dire des peines de prison qui sont réservées, qui pourraient être réservées dans des cas exceptionnels au patron. Au terme mais, que ça stresse l'employeur.
Mais c'est principalement un foutage de gueule quand même, dire ça des patrons, c'est...
Alors voilà, mais il y a bien quelques salariés qui ont réussi à obtenir une consolation quand ils se sont fait un peu maltraiter, justement auprès de des prud'hommes, probablement pour non-respect de l'environnement de travail, à mon avis arrive de plus souvent. Alors, toujours dans le même esprit, l'alarme vient également aux paupières quand il est expliqué que les médecins du travail rédigent beaucoup trop d'avis d'aptitude comportant des restrictions d'aptitude ou des aménagements de poste. Donc c'est plus d'1 million par an, donc comme quoi il y a des besoins. Pas toujours clairement. Donc la loi dit il y a des difficultés d'interprétation sur ces avis. Et surtout, empêcherait par ce biais tout licenciement. Tant que l'avis mentionne aptitude, aucun licenciement ne peut être envisagé. Ça c'est de j'ouvre les guillemets. Hein. C'est la loi qui le dit. Tant que l'avis mentionne l'aptitude, aucun licenciement ne peut être envisagé, même si l'employeur est dans l'incapacité de suivre les recommandations et propositions du médecin du travail. Voilà. Dès lors, les enjeux selon l'étude d'impact sont sur ces deux points. Sécuriser les employeurs, petit A, on l'a compris. Et les solutions qui sont envisagées, moins de visites faites par des médecins. On ferait appel à d'autres professionnels. Je ne sais pas s'il y a d'autres professionnels que des médecins. D'autres professionnels de santé. Oui. Voilà, oui. Des avis d'aptitude faits pour des collaborateurs médecins. Et un encadrement, voire une suppression des réserves. Donc voilà. Donc bon, au total, c'est la loi se propose pour simplifier des visites tous les 4 ans et qu'elles puissent être faites par des médecins généralistes. 3 petits points. Donc en fait, dans un truc où effectivement, en fait, bon voilà, on va vous dire les choses. Alors, simplement, il s'agit de moderniser. Oui, vous l'avez entendu. Oui. Et donc moderniser veut dire simplifier. Et donc simplifier ne veut pas dire plus d'effectifs pour remplir les missions de la médecine du travail, mais bien au contraire d'adapter les contraintes légales qu'il y avait sur l'ancienne médecine du travail, telle qu'elle devrait fonctionner normalement, au manque d'effectifs tel qu'il est aujourd'hui, et au passage déstresser l'employeur de toutes ces charges. Et donc, en lisant ça, en lisant globalement la loi Macron, on a quand même envie de dire une chose, c'est que finalement, simplifier, moderniser, c'est un mot qu'on a depuis 10-15 ans.
C'est formidable.
Écoutez, donc, il faut comprendre, simplifier, moderniser le droit du travail, l'organisation, l'inspection du travail, tout ça. Eh bien, écoutez,
pour plus de clarté,
devenez là. Si tout ça avait pu créer de l'emploi à un moment donné, depuis 15 ans, eh ben, ça se saurait.
Bien sûr.
Voilà. Et là, on n'est vraiment pas dans un. En tout cas, c'est pas ça qui va faire baisser le chômage, quoi qu'il arrive.
Non, mais alors juste un détail, parce que là, si on s'adresse effectivement à des médecins, des généralistes. Ça veut dire que c'est aux frais des gens qui vont les voir pour...
D'accord. Non, mais simplement, ça les emmerde. Parce que c'est, c'est un tarif minimal. Ils sont payés un tarif minimal, bien entendu.
Bien sûr.
Et ils font vraiment ça parce que c'est
une... Donc, c'est une affaire à suivre parce que tous les sujets qu'on vient d'aborder ce soir, on en fera peut-être des émissions spécifiques. Si jamais la loi passe, bien sûr. En invitant des gens qui sont spécialisés dans le domaine.
Alors, j'ajouterais, pour être concret en ce qui concerne les médecins, ça veut dire que tu iras voir ton médecin traitant parce qu'un de tes gosses a la diarrhée. Et tu ressortiras en entendant « vous êtes viré ». C'est formidable.
Par exemple. Par contre, il y a des choses, parce qu'on a vu qu'il y avait 220 milliards qu'on avait prêté aux riches, aux patrons, pour embaucher. et qui ne l'embauche toujours pas. Hein. Même si Gattaz a dit qu'il pouvait embaucher en deux jours 1 million de personnes. Alors, toi, tu as d'autres, il y a d'autres cadeaux qu'on a fait aux riches. Alors, c'est quoi les cadeaux qu'on a fait
alors,
aux riches?
Alors, après les maladies enfantines notifiant votre licenciement grâce à votre généraliste devenant votre médecin du travail, j'ai le cadeau de Macron aux riches ennemis de Hollande. Donc, c'est un article du Canard Enchaîné, mais alors, c'est une douceur. Ça se raconte, mais il faut que ça se vive. Donc, je vais essayer d'être bref. Donc, passer inaperçu une disposition de sa loi, parce que c'est un fourre-tout, hein. On trouve tout dans c'est comme dans le cochon. Tout est bon dans la loi Macron, selon certaines catégories et milieux autorisés, comme dirait Coluche. Donc, il y a une disposition de la loi qui réduit de moitié la fiscalité des actions distribuées gratuitement.
Alors, stock option, on appelle ça.
Voilà. Alors, inutile de vous dire que, le citoyen lambda, a déjà entendu parler de la notion de stock option, mais qu'il soit fonctionnaire ou simple employé dans une boîte privée, il n'en verra pas la couleur puisqu'il n'est pas un cadre dirigeant. Donc il n'a pas fait des hautes écoles, enfin il n'est pas un fils d'eux qui lui permettent d'avoir ce genre de privilège. Sauf que c'est pas mal. Et oui, parce que en fait ce qui se passe, c'est que Emmanuel Macron, ex-banquier Rothschild, propose tout simplement de réduire de moitié les impôts payés par les bénéficiaires d'actions gratuites distribuées par les sociétés à leurs salariés. À commencer par ceux qui sont déjà dorés sur tranche. Bah oui, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Tout le monde le sait. Donc, en fait, il y a des experts en fiscalité, qui trois députés, qui 23 janvier roupillaient sur l'Assemblée nationale. Tranquille. Et là, il se réveille, il constate l'article 34 de la loi Macron. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Il dit tout simplement de simplifier, ça c'est très à la mode, et d'alléger les modalités d'imposition du gain d'acquisition des actions gratuites. Comment? Bah, actuellement, voilà le barème. Voilà la punition pour les gens riches. C'est que, actuellement, l'impôt sur le revenu, les stock options, si tu veux, sont imposables concernant l'impôt sur le revenu. Oui. Selon les règles de droit commun. Donc, toi aussi.
50%, je crois.
Et voilà. Et sauf que la valeur de ces actions sera désormais imposée selon les principales modalités applicables aux plus-values mobilières, dit le texte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, traduction en clair, le bénéficiaire d'une action gratuite valant 100 euros en bourse peut aujourd'hui, selon sa tranche d'imposition, dont on peut soupçonner qu'elle n'est pas très basse, jusqu'à 42,71 euros.
C'est ce qu'il payait avant, ça. Ouais.
Voilà. D'impôt sur le revenu, or, c'est GRZ. Bon, 50
Attends,
euros.
Christophe, pour être clair. Sur 100 euros, avant, il payait aux impôts 42,76.
Oui, mais
il paye combien aujourd'hui?
Oui, le problème, c'est pas ça. C'est que maintenant, t'imagines, t'as 100 actions à 100 euros. Oui. Et ben maintenant, on va compter que les 50 premières actions à 100 euros pour t'imposer. C'est formidable.
Ah, c'est pas mal, voilà. Effectivement.
Donc, c'est un coup de massue, évidemment. Combien ces câlineries vont coûter au trésor public? Parce que là, c'est carrément un cadeau très riche.
Bien sûr.
Même les gens de la première et de la deuxième tranche de l'USF n'ont pas ça. On vit un monde formidable. La simplification selon la loi Macron. Donc, Monsieur Macron, le 16 janvier, a fini par indiquer aux députés que la mesure réduirait les recettes fiscales de 200 millions d'euros. Par les temps qui courent.
C'est tout ce qu'il fallait de moi, oui.
Mais en fait, selon des simulations effectuées par des cabinets privés, parce que vous imaginez la nouvelle, il y a des avocats d'affaires et des fiscalistes qui, devant leur riche clientèle qui aime la discrétion, qui ont commencé à sortir des calculettes en disant « Oh là, on va nous demander de l'optimisation, là, il y a des bras en face fer. » Eh ben, la vérité, c'est 900 millions.
900 millions, c'est pas mal quand même. Hein.
C'est quasiment 1 milliard donné aux plus riches. Fin du débat.
Très bien. Bien, ben merci messieurs. Voilà. Donc moi, je tiens à rappeler que la loi Macron attaque d'une façon certaine l'ensemble des services publics. Hein, on va dire ça comme ça. Enfin, des métiers, les médias comme les huissiers, les juges, les prud'hommes, etc., etc. Et que nous, on considère que faut que ça cesse, hein, ces attaques, parce que bon, ils ont quand même bénéficié d'un certain nombre de milliards d'aides, les patrons, pour embaucher, qui ne nous ont toujours pas joué le jeu, et que là, ça suffit, maintenant, il faut les réprimer. Voilà.
Rien n'est jamais assez. Voilà. Je voulais juste finir sur ce délit d'entrave, parce qu'on en a beaucoup parlé, puisqu'effectivement, il est très peu appliqué. Mais ce qui est intéressant, c'est le contexte dans lequel il a été supprimé. Donc, effectivement, un patron pouvait effectivement avoir des peines pénales, donc des poursuites pénales, en cas de manquement, s'il nuisait au fonctionnement fonctionnement des institutions représentatives du personnel. Donc, par exemple, comité d'entreprise, CHSCT, CHSCT, etc. Les juges n'ont jamais prononcé de prison pour délit d'entrave. À ma connaissance, hein, les derniers en date poursuites pénales concernent les responsables de France Télécom, je crois.
Tout à fait, absolument.
Voilà, mais la menace existait. Or, ça stressait les dirigeants des groupes étrangers, donc des groupes américains. Donc, par exemple, l'usine Molex, les dirigeants du groupe appartenant à un groupe américain, avaient été condamnés à 6 mois de prison avec sursis, bien sûr, par le tribunal correctionnel de Toulouse, pour ne pas avoir informé les représentants du personnel avant d'annoncer la fermeture de l'usine, ce qui est quand même la moindre des choses, vous connaîtrez. Et donc, certains patrons auraient dit leur inquiétude face à ce risque pénal exceptionnel et si peu appliqué. Donc, leur avocat aurait agité ce chiffon rouge, leur conseillant la plus grande prudence, soi-disant, et donc, avant de s'installer, évidemment, en France. La France étant bien entendu le pays où qui attire le moins d'investissements, tout le monde le sait.
C'est bien le troisième pays mondial.
Voilà, exactement. Donc, le président de la République a annoncé lors du deuxième conseil stratégique de l'attractivité, important, ouvert aux patrons étrangers, qui s'est tenu le dimanche 19 octobre à l'Élysée, que cet article du droit pénal de travail serait annulé. Et c'est mieux qu'il en soit ainsi. Donc, Macron exécute une volonté présidentielle, c'est à noter, une volonté présidentielle pro-patronale, bien sûr. En contrepartie de la suppression de cette peine, le ministre du Travail avait envisagé que les contraventions aillent au-delà des modestes 3 750 € actuels. Bon, mais 3 750 € actuels pour des dirigeants d'entreprises étrangères, des actionnaires, c'est absolument ridicule, et ça fait rire. Voilà, donc effectivement, on est très loin, on lit l'article, du François Hollande au Bourget qui menaçait la délinquance financière. La République vous rattrapera, avait-il dit. Eh bien voilà, au moment de prendre leur décision de fermer pour cause boursière des entreprises, rien ne sera plus capable, même à l'état de menace, d'empêcher les spéculateurs de ne pas consulter les salariés.
N'en jetez plus, merci à tous les deux, merci à Claude pour la technique. Merci messieurs, dames d'avoir suivi cette émission, elle se termine maintenant. Je vous dis bien sûr à la prochaine fois, donc dans 15 jours. Je vous remercie et je fais un gros bisou aux filles et une poignée de main aux garçons. Ciao.
Bonsoir.
Bonne soirée.